Et c'est l'heure pour vous de retrouver le journal d'Haïti et des Amériques. C'est avec Adrien Delgrange. Bonjour Adrien.
Bonjour Edmond, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce journal des Amériques du 10 mai. À la une, il y a encore quelques semaines, ils s'insultaient, ils se menaçaient au risque de s'attaquer militairement. Aujourd'hui, Donald Trump et Kim Jong-un montrent leur sérieux réchauffement dans cette relation entre les deux pays. Alors, ce qui a permis d'apaiser les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis, eh bien, c'est la libération, hier, de trois Américains. Le témoignage de l'un d'eux, détenu pour espionnage depuis près de 3 ans.
C'est comme un rêve, nous sommes très heureux. Nous avons été traités de différentes manières. Moi, j'étais dans un camp de travail, mais quand j'étais malade, ils m'ont soigné.
Par ailleurs, dans ce journal, nous irons au large de l'Amazonie, à l'embouchure du fleuve Amazon. L'ONG Greenpeace a découvert un récif de corail. Une découverte qui pose problème à l'entreprise Total. Le groupe pétrolier français espère entreprendre un forage au même endroit. Hier, au Nicaragua, une nouvelle marche citoyenne a mobilisé des dizaines de milliers de personnes dans les rues de la capitale Managua. En Haïti, lundi prochain, le prix des carburants à la pompe va augmenter. Décision du ministère de l'Économie, une annonce qui n'est pas du goût de tout le monde, nous dira Franz Duval du Nouvelliste. Et puis, dans le journal des Outre-mer, aujourd'hui nous sommes le 10 mai et c'est une journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. C'est une détention qui constituait un obstacle majeur à la rencontre prévue entre le président américain et le dirigeant de la Corée du Nord. Ce n'est désormais plus le cas. À 2h30 du matin, hier, sur le tarmac de la base aérienne d'Andrews, dans le Maryland, Donald Trump a accueilli les trois ressortissants américains.
C'est une nuit particulière pour ces trois formidables personnes. C'est un honneur de les accueillir. Mais le véritable honneur sera d'obtenir la dénucléarisation de l'ensemble de la péninsule. C'est ce que les gens attendent depuis longtemps. Nous apprécions beaucoup que Kim Jong-un les ait libérés avant notre rencontre. Jusqu'à présent, nous pensions que nous pourrions récupérer ces trois personnes exceptionnelles pendant le sommet ou juste après. C'est très gentil à lui de les avoir libérés avant. Franchement, nous ne pensions pas qu'il le ferait et il l'a fait. Donc je pense vraiment que nous avons une réelle possibilité de faire quelque chose qui aura du sens. Quiconque aurait dit cela il y a 5 ou 10 ans ou même un an, on lui aurait dit que ça serait pas possible. Donc je pense que beaucoup de choses positives peuvent se produire.
Le président américain Donald Trump cette nuit sur la base aérienne d'Andrews. Place tout de suite à la revue de presse. Et nous sommes à présent avec Romain Lemaresquier pour la revue de presse des Amériques. Bonjour Romain.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Et à la une aujourd'hui, la libération de trois Américains détenus en Corée du Nord. Une preuve, selon la Maison Blanche, de l'efficacité de sa politique étrangère.
Oui, c'est en tout cas ce qu'a laissé entendre dire Donald Trump lors de l'arrivée aux États-Unis de ces trois Américains, selon le New York Times. Nous voulons remercier Kim Jong-un qui a été très bon. Le fait que nous soyons parvenus à les faire sortir aussi vite est en quelque sorte un hommage à beaucoup de choses, ce qui inclut un certain processus qui est actuellement en cours. Donald Trump fait la référence à la prochaine rencontre qui doit se tenir entre lui et le leader nord-coréen. Ces libérations qualifiées de gestes de bonne volonté par des membres de la Maison Blanche, précise le New York Times, prouve que la stratégie employée à l'égard de la Corée du Nord fonctionne d'après l'administration Trump et selon le vice-président américain Mike Pence, qui était également présent pour recevoir les trois Américains fraîchement libérés, cela ne signifie pas pour autant que les États-Unis vont réduire les pressions exercées à l'encontre de Pyongyang.
Alors Romain, la stratégie employée par Donald Trump concernant à la fois le dossier du nucléaire iranien et le dossier nord-coréen pourrait lui permettre en quelque sorte de grappiller des votes avant les élections de mi-mandat prévu en novembre.
Oui, c'est en tout cas l'analyse du Washington Post ce matin. Le quotidien explique que ces décisions en matière de politique étrangère pourraient bien redorer le blason du président américain aux États-Unis, une image écornée par de nombreux scandales. En annonçant le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, une promesse de campagne qu'il avait répétée à de maintes reprises, Donald Trump a rassuré sa base électorale, estime le quotidien. Et la présence de Donald Trump à l'arrivée des trois ressortissants américains la nuit dernière permet aussi au président de se montrer sous un meilleur jour. Une image d'un président actif, précise le quotidien. Cette opération qui vise à restaurer l'image du président va également s'appuyer sur les bons résultats de l'économie américaine et sur un taux de chômage au plus bas. Le but, attirer un maximum d'électeurs avant ces fameuses élections de mi-mandat.
En Amérique centrale, à présent, direction le Nicaragua, Romain, avec hier une nouvelle marche citoyenne qui a mobilisé des dizaines de milliers de personnes dans les rues de la capitale Managua.
Oui, une marche qui a mobilisé tous les secteurs de la société nicaraguayenne, selon le quotidien La Prensa. C'est la troisième marche de ce type et les manifestants réclament toujours justice pour les 47 victimes de la répression policière lors de manifestations étudiantes il y a maintenant 3 semaines. Des manifestants qui rejettent la commission formée par les autorités pour faire toute la lumière sur cette tragédie. Il réclame une enquête transparente dirigée par la Commission interaméricaine des droits de l'homme et l'ONU, détaille le quotidien Hoy. Certains manifestants, comme par exemple ceux du mouvement paysan anti-canal, souhaitent tout simplement le départ du président Daniel Ortega. De nombreux anciens partisans du Front sandiniste, dont est issu Daniel Ortega, étaient également présents dans cette manifestation, certains n'hésitant pas à faire le parallèle entre cette marche et un enterrement du mouvement sandiniste.
Et puis cette information au Mexique, la campagne pour l'élection présidentielle inspire certains à l'image de cette application, application qui vient de sortir et qui met en scène l'un des candidats.
Oui, il s'agit de Jaime Rodríguez Calderón, surnommé El Bronco, ancien gouverneur de l'État du Nuevo León. Lors du premier débat télévisé pour la présidentielle, rappelle El Universal, El Bronco avait affirmé qu'il couperait les mains des délinquants et des corrompus et que s'il était élu, il ferait une telle proposition au Congrès, des déclarations qui ont inspiré des fans de jeux vidéo qui en ont créé un où le candidat El Bronco, armé d'un hachoir, coupe les mains de personnes qui défilent devant lui, parmi lesquelles on peut voir un certain AMLO, Manuel López Obrador, grand favori de ce scrutin. Un jeu téléchargeable gratuitement pour ceux qui sont intéressés.
Et puis enfin, Romain, avant de se quitter, un mot de Total, la compagnie pétrolière française qui compte mettre un terme à ses activités de distribution de carburant en Haïti.
Oui, selon le site haitilibre.com, le groupe français a annoncé dans un communiqué avoir trouvé un accord en vue de céder sa filiale de distribution en Haïti, c'est-à-dire un réseau de 92 stations-service, ainsi que ses activités de commerce de gros, de carburant et de combustible. C'est le consortium Bandari Corporation, formé par plusieurs acteurs locaux et régionaux, qui va reprendre ses activités pour un montant qui n'a pas été communiqué, selon le site haitilibre.com.
Merci Romain. Romain Lemaresquet pour cette revue de presse des Amériques sur RFI. Et nous sommes à présent en ligne avec Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste en Haïti. Franz, Haïti s'attend à une hausse des prix des produits pétroliers à la pompe et cela suscite déjà quelques remous.
C'est une lettre d'engagement du gouvernement haïtien adressée à Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, qui a mis la puce à l'oreille de la population. Le ministre de l'Économie et des Finances d'Haïti a dû confirmer. Oui, en juin, les prix des produits pétroliers seront ajustés à la pompe pour rejoindre les prix du marché international en Haïti.
C'est l'État haïtien, France, hein, qui fixe les prix de l'essence.
Les prix de l'essence sont les derniers prix fixés par le gouvernement haïtien. L'État a le monopole de l'importation des produits pétroliers et fixe les prix en fonction de sa politique sociale ou économique en Haïti. Depuis plusieurs années, le gouvernement subventionne la consommation d'essence de toute la population, y compris la consommation des entreprises, car les prix sont indiscriminés. Tout le monde en profite.
Cela pèse lourd d'ailleurs sur le budget de l'État.
Le cadeau pétrolier pèse très lourd. La subvention aux produits pétroliers ou la non-perception de taxes coûte des milliards de gourdes chaque année au budget du pays, sans que personne ne soit en mesure d'évaluer quelles sont les retombées concrètes d'une telle générosité. L'essence se vend à un prix plus bas en Haïti qu'en République dominicaine, sa voisine. Mais en Haïti, le déficit budgétaire, l'inflation et le taux de change goutte dollar flambent. Tout le pays paie d'une façon ou d'une autre les largesses sur le pétrole.
Et puis enfin, Franz, expliquez-nous quelles seraient les conséquences d'un ajustement des prix.
De la grogne, sans aucun doute. Des perturbations sociales, sans doute. Déjà, les syndicats de transporteurs publics ont manifesté leur désapprobation contre toute augmentation des prix des produits pétroliers. Il est à craindre que les forces politiques aussi se mettent dans la partie pour forcer la main au gouvernement qui n'aura d'autre choix que de subventionner des projets pour les syndicats, des projets sociaux ou de repousser l'augmentation des prix à la pompe. Le problème est que depuis plus d'une année, l'administration Moïse Lafontaine repousse l'accomplissement de l'acte de bonne gouvernance que représente l'application de la vérité des prix sur le pétrole sur le marché haïtien.
Franz Duval du Nouvelliste sur Radio France Internationale, merci à vous. Dans quelques minutes, le journal des Dom-Tom, nous reviendrons sur cette journée commémorative du 10 mai, abolition de l'esclavage. Mais pour l'heure, partons à Rio de Janeiro.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
À l'écoute des RFI, nous sommes à présent au Brésil avec François Cardona. François, vous nous emmenez au large de l'Amazonie, à l'embouchure du fleuve Amazone précisément, car l'ONG Greenpeace est dit avoir découvert un récif de corail. Et cette découverte, eh bien, empoisonne les affaires du groupe Total au Brésil et peut-être même en Guyane française.
Oui, la multinationale a finalement répondu aux accusations de Greenpeace. Total dément formellement la présence du fragile récif dans la zone de forage d'un puits d'exploration. L'ONG avait envoyé une équipe de scientifiques à bord d'un bateau et affirmé mi-avril avoir découvert dans l'embouchure de l'Amazone la présence d'une formation récifale qu'on posé de rhodolite à l'endroit même où Total envisage de forer des puits d'exploration pétrolière. Dans son communiqué, Total a répondu qu'aucune formation n'avait été identifiée, formation biogénique, dans ce bloc d'exploration. L'enjeu est énorme pour l'entreprise pétrolière qui a déjà investi une fortune dans la recherche et le développement de projets de forage au large de l'embouchure de l'Amazone, dont le sous-sol marin regorgerait de pétrole.
Alors François, que sait-on exactement de ce récif de corail ?
Alors il y a 2 ans, dans l'embouchure de l'Amazone, les experts de Greenpeace, à l'aide d'un sonar et d'un robot téléguidé, ont pu observer pour la première fois ce récif unique au monde. Ils en ont obtenu des images inédites, des coraux, des éponges, des poissons rares par milliers. Une marée noire ou une simple fuite de pétrole serait catastrophique pour cette faune et cette flore de ce récif. C'est ce que dénonce Greenpeace, qui a lancé une campagne de sensibilisation mondiale. Les communautés côtières brésiliennes, dont les ressources dépendent de la mer, seraient évidemment touchées de plein fouet par une fuite de pétrole. Face à ce scandale, l'agence environnementale brésilienne a finalement rejeté l'été dernier une étude d'impact proposée par Total et menacé de mettre fin au processus.
Et alors ce qui est important de savoir également, c'est que ce récif fragile de corail s'étendrait également sur des centaines de kilomètres jusqu'à la Guyane française.
Oui, c'est en tout cas ce que veut prouver Greenpeace qui s'attaque aujourd'hui aux investissements de Total en Guyane française. La multinationale pétrolière en mars 2011 a signé un accord de 30 millions d'euros pour l'exploration de ressources sous-marines dans la région. Les experts l'assurent, l'existence de pétrole en mer profonde au large des côtes guyanaises est assurée. Total est la seule entreprise titulaire d'un permis de recherche d'hydrocarbures dans la région. Alors Greenpeace a lancé une exploration en bateau au large de la Guyane française. Elle promet des résultats prochainement. Vous le voyez, le récif, s'il s'étend réellement au large de la Guyane, comme le soupçonne l'ONG, cela pourrait gravement mettre en danger les opérations de Total dans la région.
Merci François. François Cardona, correspondant des RFI au Brésil. Alors vous l'aurez compris, le bateau de Greenpeace est actuellement au large de la Guyane et de donc de l'Amazonie pour documenter le récif de l'Amazone où le groupe pétrolier Total a des projets d'exploration. François Chartier est le chargé de campagne de Greenpeace et il répond au dernier communiqué de Total. Ce sont des propos recueillis par Arnaud Jouve qui se trouve à bord de l'Esperanza.
Ce que dit Total aujourd'hui, c'est que finalement, le récif se situe dans un bloc où ils n'ont pas l'intention de forer. Or, l'étude d'impact qu'a produite Total, où ce récif ne figure pas, s'applique à l'ensemble des blocs. Donc ce qu'on peut dire par là, c'est que finalement, en ayant omis de mentionner la présence du récif dans son étude d'impact, c'est l'ensemble de l'étude d'impact que l'on peut considérer comme invalidée.
Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à visiter le site internet d'RFI, www.rfi.fr. Retrouvez le carnet de bord d'Arnaud Jouve à bord de l'Esperanza avec photos et témoignages à l'appui.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Tessa Gromann. Bonjour Tessa.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Nous sommes le 10 mai, jour de commémoration de la traite de l'esclavage et des abolitions en France.
Et même si en Martinique, on commémore plutôt l'abolition le 22 mai, en mémoire à un soulèvement d'esclaves dans l'île en 1848, ce 10 mai est le jour de départ du convoi des réparations. Il s'agit d'une marche au flambeau organisée chaque année par le MIR, le Mouvement International pour les Réparations. Le convoi se déplace de ville en ville pendant 12 jours pour se remémorer l'histoire de l'esclavage. Claudine et Karen vont y participer.
En fait, c'est redécouvrir mon histoire, en fait. C'est important pour moi. Parce que je le démarque de notre histoire. Il y a des choses que je ne comprends pas. Pourquoi on était traité comme ça? Pourquoi c'est toujours le peuple noir? Effacer un peu de haine en moi par rapport à l'esclavage. J'essaye de m'apaiser, comprendre et oublier. Et dans ma tête, me dire, on n'est plus esclave.
C'est émouvant, la retraite en flambeau, le fait que ce soit pour rendre hommage déjà à nos ancêtres qui ont souffert pour qu'on soit quand même dans de bonnes conditions à l'heure actuelle, c'est une chose qui est très importante. Et moi, j'estime qu'en tant que Martiniquais, en tant que descendant d'esclaves, qu'on a, c'est un devoir de mémoire. Donc, c'est vraiment intéressant d'y participer. Et puis, même les chants, tout ce qui est célébré pendant la marche, on ne voit pas les kilomètres, mais c'est vraiment quelque chose à faire.
Témoignage recueilli par Lauriane Virasamy, Martinique la première. Le départ du convoi ce soir à 18h depuis Sainte-Anne dans le sud de la Martinique. La galère pour les habitants de Grand-Santi en Guyane. Cette commune de l'intérieur n'a plus de liaison téléphonique depuis plusieurs jours et très peu d'eau courante depuis le début du mois. Le point avec Nickerson Perdus, Guyane la première.
Il y a des communes où l'isolement n'est pas un vain mot mais bien une réalité aux allures de galère à répétition. Dernier épisode cette semaine avec une coupure totale de la liaison de téléphonie fixe et mobile. Impossible de recevoir et d'émettre des appels à Grand-Santi. Une problématique importante pour le bon fonctionnement des services de la mairie, mais aussi des écoles et de l'unique centre de santé de la commune. Rappelons que depuis début mai, la commune est également touchée par de longues coupures d'eau potable, des coupures durant la journée et toute la nuit. Quant aux habitants, ils crient trop peu leur ras-le-bol et ne souhaitent pas s'exprimer devant la presse. Pas certain que leur souffrance soit dans ce cas entendue.
La commune de Grand-Santi qui n'est accessible que par avion ou par pirogue depuis la côte. Les sargasses encore et toujours. En Guadeloupe, à Petit-Bourg, les élèves et professeurs du lycée des droits de l'homme dénoncent le risque sanitaire lié au gaz toxique émis par ces algues brunes qui envahissent les côtes de l'archipel. Reportage dans le lycée de Chantal Orne.
Vous êtes là, je suppose que vous sentez l'odeur.
Une odeur d'œuf pourri et d'ammoniac flotte sur le lycée des droits de l'homme de Petit-Bourg. Depuis les échouages massifs de sargasses dans le centre, l'air est irrespirable pour les élèves, les enseignants et toute la communauté scolaire. Pour Mahoni, lycéenne, suivre les cours devient insoutenable.
On a constamment une mauvaise odeur en cours, c'est vraiment infernal. Dans tout le lycée, c'est comme ça.
Christian Vélin, professeur de mathématiques au lycée des droits de l'homme de Petit-Bourg, et porte-parole de la communauté éducative.
Moi, j'ai des élèves dans mes classes. Plus de 10 élèves m'ont dit qu'ils ont des nausées, maux de tête.
Dans les prochains jours, 24 capteurs seront déployés pour prendre des mesures. Mais le lycée veut qu'on prenne en compte ses inquiétudes.
Chantal Orne, Guadeloupe la première, et à Goyave, en tout cas au sud-est de la Guadeloupe, le maire Ferdi Louisi a décidé de fermer deux écoles de sa commune pour raisons sanitaires à cause des sargasses, Adrien.
Tessa, merci beaucoup Tessa Groman sur Radio France Internationale pour toutes ces informations ultramarines. Il est brésilien, il s'appelle Lucas Santana, il est français, il s'appelle Fefe. Ils se rencontrent en 2015, deux univers musicaux qui s'entremêlent et ça donne ça sur RFI. Santana et Fefe, duo qui date de 2015 et que vous pouvez retrouver quand vous voulez dans la playlist de Radio France Internationale. C'est la fin de ce journal des Amériques, où que vous soyez sur la planète. Merci de l'avoir écouté et à demain.